En 11 de l'ère des bunkers. La cité Allo. Tandis qu'ils s'approchaient de Allo, la capsule de Chungsin et Tsaobin dut faire face à une ligne de blocus dressée par la flotte de la Fédération du Système solaire. Plus de 20 vaisseaux militaires interstellaires étaient déployés autour de la cité, et le siège durait depuis 2 semaines déjà. Les vaisseaux étaient des appareils colossaux, mais, à côté de la ville, ils paraissaient être de simples sampans flottant à côté d'un gigantesque paquebot. Les appareils militaires qui encerclaient Allo constituaient la principale armada du gouvernement fédéral. Après que les 2 flottes trisolariennes eurent disparu dans les profondeurs de l'espace, et après l'arrêt de toute communication entre les mondes trisolariens et humains, les menaces extraterrestres qui pesaient sur l'humanité changèrent de nature. La flotte solaire, qui avait été fondée en réponse à la future invasion trisolarienne, n'avait plus de raison d'être et tomba peu à peu en décrépitude, finissant même par être en partie démantelée. Elle, qui appartenait jadis aux flottes internationales, était passée sous le contrôle de la Fédération. C'était la première fois dans l'histoire qu'un gouvernement unifié contrôlait le gros des forces armées humaines. Il n'était plus nécessaire désormais de maintenir une puissante flotte spatiale, et elle fut drastiquement réduite. Après le commencement du chantier des bunkers, la majorité de la centaine de vaisseaux militaires interstellaires furent utilisés comme appareils civils. Ceux-ci furent désarmés et on désactiva leurs écosystèmes autorégénératifs. Les vaisseaux avaient pour mission le transport de matériaux entre les différents bunkers des planètes. Seuls 30 vaisseaux militaires étaient encore en service. En 60 ans, aucun nouveau vaisseau n'avait été conçu. Les engins de cette taille étaient en effet très coûteux. L'investissement qui permettait de fabriquer 2 ou 3 vaisseaux interstellaires équivalait à celui nécessaire à la construction d'une cité spatiale. Par ailleurs, on n'avait pas besoin de vaisseaux neufs, et les efforts de la flotte fédérale se tournaient davantage dès lors vers la bonne marche du dispositif d'alerte du système solaire. La capsule spatiale reçut l'ordre de stopper son avancée. Un patrouilleur fut envoyé dans sa direction. L'engin était minuscule et on ne put le repérer dans l'espace que grâce à la lumière émise par ses propulseurs lors de sa décélération. Ce ne fut que lorsque le patrouilleur arriva à côté de leur capsule que Chungsin et Tsaobin purent distinguer ses contours. Une fois le patrouilleur amarré à la capsule, Chungsin jeta un œil sur les militaires qui occupaient sa cabine. Leurs uniformes différaient beaucoup de ceux de l'époque précédente. Ils s'inscrivaient eux aussi dans la tendance rétro de ce nouvel âge. Ils étaient plus proches de l'ancien style des uniformes d'armée de terre que de celui des armées spatiales que Chungsin avait connu. Mais après le raccordement des 2 appareils, seul un homme d'âge moyen en costume cintré vint les rejoindre. Il conservait dans ses déplacements en apesanteur une certaine élégance et un certain équilibre, et ne semblait nullement à l'étroit dans cet espace exigu où ne pouvaient pourtant prendre place que 2 personnes. « Bonjour, je suis Blair, envoyé spécial du gouvernement fédéral. Nous allons tenter d'entamer d'ultimes négociations avec le gouvernement de Allo. J'aurais pu vous parler depuis notre appareil, mais pour honorer une coutume datant de l'ère commune, je me suis dit qu'il serait peut-être mieux que je vienne en personne. » Chungsin remarqua que les politiciens aussi avaient changé. La franchise et la spontanéité de l'époque antérieure laissaient place au retour de la prudence, de la mesure et de la courtoisie. « Le gouvernement fédéral a décrété le blocus total de la cité Allo. Personne ne peut plus y entrer ni en sortir. Mais quand nous avons appris la venue du docteur Chungsin, l'envoyé spécial la salua de la tête, nous avons reçu comme consigne de vous laisser entrer dans la ville. Nous espérons vivement que vous userez de votre influence pour convaincre le gouvernement de Allo d'abandonner sa résistance obstinée et illégale avant que la situation n'empire. C'est au nom du président que je vous adresse cette requête. » L'envoyé agita la main et fit s'afficher une fenêtre d'information. Le président de la Fédération apparut à l'écran. Le bureau derrière lequel il se tenait debout était couvert d'une rangée de drapeaux correspondant aux grandes cités du monde des bunkers. Mais Chungsin ne connaissait aucun d'entre eux. Les drapeaux qu'elle connaissait avaient disparu en même temps que les nations auxquelles ils étaient associés. Le président était un homme d'origine asiatique à l'allure très ordinaire. Son visage laissait deviner un peu de fatigue. Après avoir salué respectueusement Chung Sin d'un hochement de tête, il prit la parole.
Comme vient de l'exprimer l'envoyé spécial Blair, nous vous adressons ici le souhait de la Fédération tout entière. Monsieur Wade m'a affirmé que la décision finale vous revenait. Nous ne savons pas si nous devons le croire, mais nous plaçons cependant notre espoir en vous. Je suis ravi de voir que vous êtes encore jeune. Mais pour cette affaire, je crains que vous ne le soyez justement trop.
Le président disparut de la fenêtre et Blair dit à Chung Sin. Je sais que vous avez déjà une vision globale de la situation actuelle, mais je souhaiterais porter quelques éléments à votre connaissance en essayant bien sûr de rester le plus objectif et le plus honnête possible. Chung Sin remarqua que l'envoyé comme le président ne s'était adressé qu'à elle et qu'il ne s'était même pas préoccupé de la présence de Cao Bin, ce qui suffisait à montrer l'antipathie qu'il leur inspirait. Chung Sin avait en effet déjà été informé en détail de la situation par Cao Bin, et en entendant le récit de l'envoyé spécial, elle nota que leurs deux versions n'étaient pas si différentes. Après la prise de contrôle par Thomas Wade du groupe Halo, la compagnie était devenue l'une des principales partenaires du chantier des bunkers. En l'espace de 8 ans, la taille du groupe avait été multipliée par 10, devenant l'une des sociétés les plus prospères du monde. Mais Wade n'était pas un entrepreneur de génie. En matière de gestion de la compagnie, il était même sans doute moins doué que AA. Le succès du groupe Halo était davantage le résultat des choix opérés par l'équipe de dirigeants qu'il avait mis en place dès son arrivée à la tête de la compagnie. Il n'intervenait que rarement dans les opérations du groupe et éprouvait peu d'intérêt pour celles-ci. Cependant, il investissait la majeure partie des bénéfices de ses activités dans les recherches portant sur les vaisseaux luminiques. Le groupe avait fait construire la cité Halo dès le début du chantier des bunkers. S'il avait été choisi de la bâtir à l'extrême frontière de la zone de protection de Jupiter, au niveau du point Lagrange L2 du système Jupiter-Soleil, c'était surtout pour économiser le coût des propulseurs destinés à maintenir sa position. Halo était la seule cité spatiale scientifique hors de la juridiction du gouvernement de la Fédération. Pendant que la cité se construisait, Wade avait aussi lancé la fabrication de l'accélérateur de particules circumsolaires que beaucoup surnommaient la Grande Muraille du système solaire. Pendant un demi-siècle, le groupe Halo consacra l'essentiel de ses recherches au voyage à la vitesse de la lumière. Contrairement à l'ère commune, il était courant depuis l'ère de la dissuasion que des grandes entreprises intègrent des programmes de recherche théorique à leurs activités. Dans le nouveau système économique, les sciences fondamentales pouvaient rapporter des gains importants. C'est pourquoi l'attitude du groupe Halo n'était pas perçue comme anormale. L'objectif ultime du groupe qui consistait à fabriquer des vaisseaux luminiques était un secret connu de tous. Mais tant que ces activités appartenaient au strict domaine de la recherche fondamentale, le gouvernement fédéral n'avait aucun appui juridique qui lui permît de les interdire. Il n'en restait pas moins très méfiant vis-à-vis du groupe Halo et plusieurs investigations avaient déjà été lancées. Pendant un demi-siècle, les relations entre les deux entités étaient restées cordiales en raison notamment de chevauchements d'activités liés à leurs recherches respectives. De même, l'Académie mondiale des sciences entretenait d'excellentes relations de collaboration avec les scientifiques de Halo. C'était par exemple grâce à l'accélérateur de particules circumsolaires construit par Halo que l'Académie avait créé son trou noir. Cependant, 6 ans plus tôt, le groupe Halo avait brutalement annoncé sa volonté de construire des vaisseaux à propulsion par courbure, officialisant sur la place publique le but qu'elle visait depuis sa naissance. Cette déclaration avait soulevé un tollé sur la scène internationale. Les liaisons entre le gouvernement fédéral et Halo avaient été rompues. Après plusieurs tours de négociations, Halo avait fait la promesse que les essais de propulsion par courbure auraient lieu loin des lieux humains, à 500 unités astronomiques du Soleil, afin d'éviter que les sillages ne révèlent l'existence de la Terre. Cependant, la Fédération considérait pour sa part que mener des recherches sur les vaisseaux luminiques était une grave entorse, tant à la Constitution qu'à l'esprit des sociétés humaines. Le danger lié au développement des vaisseaux luminiques ne se limitait pas au sillage qu'ils risqueraient de provoquer. Un tel projet pourrait entraîner des troubles au sein de communautés qui venaient tout juste de se stabiliser. Cela ne pouvait être toléré. Le gouvernement fédéral adopta une résolution indiquant qu'il allait prendre le contrôle de la cité et de l'accélérateur circumsolaire. Il était désormais interdit à la compagnie d'entreprendre la moindre recherche, théorique ou expérimentale, sur la propulsion par courbure. Les activités de la compagnie seraient ensuite placées sous étroite surveillance. Devant cette situation, le groupe Halo annonça qu'il quittait la fédération pour devenir indépendant, affirmant que la juridiction fédérale ne s'appliquait plus dans la cité. Cette assertion provoqua une escalade dans le conflit entre les deux entités. La communauté internationale ne prit pas la déclaration d'indépendance du groupe trop au sérieux, considérant qu'il surestimait ses forces. À vrai dire, depuis le début de l'ère des bunkers, des frictions ne cessaient d'avoir lieu entre les cités spatiales et le gouvernement fédéral, pour des raisons diverses. Dans les lointains archipels de Neptune et d'Uranus, les cités Afrique 2 et Océan Indien 1 avaient jadis déclaré leur indépendance, mais tout avait fini par rentrer dans l'ordre. Même si son envergure était moindre par rapport au passé, la flotte militaire de la Fédération n'en gardait pas moins une supériorité incontestable sur les cités spatiales. En vertu de la juridiction fédérale, les cités n'étaient pas autorisées à disposer de leur propre flotte militaire. Elles avaient simplement le droit d'avoir leur propre force de police, mais celle-ci ne devait en aucun cas être équipée pour l'espace. L'économie du monde des bunkers était hautement intégrée, et aucune cité spatiale n'était en mesure de supporter un blocus dépassant 2 mois. « Sur ce point, je n'arrive pas non plus à comprendre Wade, » dit Saobin. « Il a toujours été en avance sur son temps et il a toujours mûrement réfléchi à la moindre de ses décisions. Comment a-t-il pu déclarer de façon aussi inconsidérée l'indépendance de Halo ? C'est absurde. Est-ce que ce n'est pas fournir le prétexte idéal à la Fédération pour prendre de force le contrôle de la cité ?» La capsule faisait cap vers la cité Halo. L'envoyé spécial était parti, et il ne restait plus à son bord que Chung-Sin et Tsao-Bin. Dans l'espace devant eux émergea une structure en forme d'anneau. Tsao-Bin ordonna à la capsule de ralentir et de s'en approcher. La surface métallique polie de l'objet étirait la lumière des étoiles en de longues ondes chatoyantes, tout en déformant le reflet de la capsule. La scène n'était pas sans rappeler la rencontre du gravité et de l'espace bleu avec l'anneau dans le fragment quadridimensionnel. La capsule s'arrêta et resta suspendue à proximité de l'anneau. Chung-Sin mesura mentalement le diamètre de cette structure qui devait être de 200 mètres et la bride d'une épaisseur de 50 mètres environ. Voici l'accélérateur circumsolaire, déclara Tsao-Bin, avec une voix empreinte d'un profond respect.
Il est si petit ?
Oh pardon, je n'ai peut-être pas été assez clair. Ce que tu vois ici n'est qu'un des inducteurs de l'accélérateur. Il y en a 3200 comme lui, répartis à des intervalles réguliers. Ensemble, ils font un tour complet du Soleil au niveau de l'orbite de Jupiter. Les particules passent au centre de ces anneaux où elles sont accélérées par le champ de force généré par l'inducteur jusqu'au suivant, où elles sont encore accélérées, et ainsi de suite, jusqu'à effectuer un tour complet, ou même plusieurs, du Soleil. Chung-Sin mit quelques secondes avant de pouvoir se figurer à quoi ressemblait l'accélérateur. Elle avait entendu Tsao-Bin en parler à plusieurs reprises, mais elle se l'était imaginé comme un tunnel circulaire d'une longueur incommensurable flottant dans l'espace. Fabriquer un accélérateur qui forme une muraille autour du Soleil, même dans l'orbite de Mercure, était digne du chantier de Dieu. Chung-Sin comprenait maintenant que s'il était effectivement nécessaire de construire des tunnels clos à la surface terrestre, les accélérateurs spatiaux n'en avaient plus besoin dans le vide. Les particules accélérées pouvaient tout simplement se déplacer dans l'espace et être accélérées à chaque traversée d'un nouvel inducteur. Chung-Sin ne put s'empêcher de tourner la tête pour regarder dans la direction du prochain inducteur. Le suivant se trouve à 1 500 000 km, soit à peu près 4 ou 5 fois la distance de la Terre à la Lune. C'est dire qu'on ne le voit pas d'ici, précisa Tsao-Bin. C'est un super collisionneur, capable d'accélérer une particule au niveau d'énergie qui était celui du Big Bang. Les vaisseaux ne sont généralement pas autorisés à voyager près de l'orbite de l'accélérateur. Il y a quelques années, un vaisseau transporteur égaré a rejoint l'orbite par mégarde et il a été percuté par un faisceau de particules accélérées. La collision a produit des gerbes de haute énergie qui ont vaporisé l'appareil et sa cargaison de plus d'un million de tonnes de minerais. Cao Bin raconta également à Cheng Xin que l'ingénieur en chef chargé de la conception de l'accélérateur avait été Bi Yunfeng. Ce dernier avait passé 35 de ses 60 dernières années à travailler sur ce chantier, et le reste en hibernation. Il avait été réveillé l'an dernier, mais il était maintenant beaucoup plus âgé que Cao Bin. Le vieux est chanceux. Après avoir conçu un accélérateur sur Terre lors de l'ère commune, il en a conçu un autre autour du Soleil. C'est ce qui s'appelle une carrière réussie, non? Mais lui aussi, c'est un extrémiste, un grand partisan de l'indépendance de Halo. Si le grand public et la sphère politicienne s'opposaient fortement au projet de développement des vaisseaux à propulsion par courbure, celui-ci était largement soutenu par la communauté scientifique. La cité Halo était devenue un incontournable lieu de pèlerinage pour tout scientifique aspirant un jour à étudier la vitesse luminique. Elle attirait donc un grand nombre de chercheurs brillants, jusqu'à certains travaillant au service de la Fédération, qui collaboraient avec les scientifiques de Halo de façon plus ou moins déclarée. Dans ces conditions, le groupe Halo se retrouvait à la pointe de bien des champs des sciences fondamentales. La capsule quitta l'inducteur et continua son vol. La cité Halo se trouvait déjà dans son champ de vision. Son architecture était celle, rare, d'une roue à rayons. Elle ressemblait à la roue d'un moulin tournant dans l'espace. Ce genre de structure était extrêmement solide, mais elle ne présentait pas un grand volume intérieur et manquait donc de sens du monde. Certains experts prétendaient toutefois que la cité Halo ne nécessitait pas de sens du monde, car pour ceux qui y vivaient, le monde était le cosmos. La capsule entra par l'axe de la grande roue, mais il lui fallait traverser un rayon de 8 km avant d'arriver dans la ville. C'était là l'un des plus grands inconvénients des cités spatiales en roue. Cheng Xin se rappela son expérience dans le terminal de l'ascenseur spatial 60 ans en arrière. Elle se remémora ce grand hall qui lui avait alors fait penser à une vieille gare ferroviaire. L'impression qu'elle avait maintenant était cependant bien différente. La cité Halo était une dizaine de fois plus grande que le terminal. L'intérieur était spacieux et ne donnait pas le sentiment de se trouver dans un lieu appartenant au passé. Dans l'ascenseur du rayon, la gravité augmentait peu à peu. Quand elle eut atteint 1G, ils étaient entrés dans la ville. La cité scientifique était divisée en trois parties. L'Académie des sciences, l'Académie d'ingénierie et le centre de contrôle de l'accélérateur circumsolaire. La ville se résumait en fait en un tunnel de la forme d'un anneau d'une longueur de 30 km. N'ayant aucune structure véritablement centrale, elle ne donnait bien sûr pas l'impression d'être immense, mais on ne s'y sentait pas à l'étroit. On ne voyait aucun engin de transport motorisé dans la cité. Les habitants se déplaçaient à bicyclette, dont un nombre incroyable était stationné en libre service au bord de la route. Cependant, ce fut bien un véhicule décapotable à moteur qui vint chercher Cheng Xin et Cao Bin. La gravité artificielle de l'anneau ne s'exerçant que dans une direction, la cité était bâtie sur la bordure extérieure de l'anneau. Une image holographique d'un ciel bleu saupoudré de nuages blancs était projetée dans la direction du centre, ce qui comblait en partie le sens du monde manquant de la cité. Une nuée d'oiseaux traversait le ciel. Et Cheng Xin remarqua que ce n'étaient pas des hologrammes, ils étaient bien réels. Une sensation de confort qu'elle n'avait pas éprouvée dans les autres cités spatiales gagna alors Cheng Xin. La végétation était ici luxuriante. On voyait de partout des arbres et des pelouses et les bâtiments étaient de petite taille. Ceux qui appartenaient à l'Académie des sciences étaient peints en blanc et en bleu ceux de l'Académie d'ingénierie, mais aucune des bâtisses n'était identique. Ces édifices raffinés étaient à moitié cachés par une flore débordante qui lui rappelait le campus de son ancienne université. Chung-Sin remarqua non loin un édifice curieux, comme le vestige d'un temple grec antique trônant au sommet d'une plateforme en pierre. Il était composé de colonnes brisées de tailles différentes recouvertes de lianes grimpantes. Au milieu, une fontaine faisait jaillir un jet d'eau claire et chantante. Des femmes et des hommes, vêtus en tenue décontractée, étaient adossés aux colonnes, ou étendus sur la pelouse bordant la fontaine, l'air joyeux et insouciant, comme s'ils avaient oublié que la cité était actuellement assiégée par la flotte de la Fédération. Quelques sculptures étaient disséminées sur la pelouse. Le regard de Chung-Sin fut soudain happé par l'une d'entre elles. Une longue épée, tenue par une main gantée, puisait une couronne d'étoiles de laquelle perlaient des gouttes d'eau. Depuis le véhicule, Chung-Sin crut reconnaître cette scène, mais elle ne put se rappeler où elle l'avait déjà rencontrée. Ses yeux restèrent figés sur cette œuvre jusqu'à ce qu'elle soit hors de vue. La voiture stoppa devant un bâtiment bleu sur le fronton duquel il était inscrit « Académie d'ingénierie, laboratoire de technologie fondamentale 021 ». Et sur la pelouse, devant la porte du laboratoire, les attendaient Thomas Wade et Bi-Yung Feng. Wade n'était pas entré en hibernation depuis sa prise de contrôle du groupe Halo. Il était déjà âgé de 110 ans. Ses cheveux et sa barbe étaient toujours impeccablement taillés, mais ils étaient maintenant blancs comme neige. Il ne cédait d'aucune canne, et ses pas étaient toujours sûrs malgré son dos un peu voûté. Une de ses manches était toujours vide. À l'instant où leurs regards se croisèrent, Chung-Sin sut que l'âge n'avait pas encore eu raison de cet homme. Le temps ne lui avait pas dérobé son caractère. Il n'avait fait que le souligner davantage, comme la surface d'une roche mise à nu après la fonte de la neige et de la glace. Bi-Yung Feng devait être plus jeune que Wade, mais il paraissait pourtant plus âgé. Il fut excité à la vue de Chung-Sin, comme s'il trépignait d'impatience de lui montrer quelque chose. « Bonjour, petite fille. J'avais bien dit que tu serais encore jeune quand nous nous reverrions, et j'ai maintenant 3 fois ton âge. » dit Wade, en esquissant un sourire qui, sans réussir à réchauffer le cœur de Chung-Sin, n'était plus aussi froid que la glace. Devant ces deux vieillards, elle était assaillie par une déferlante d'émotions. Ils avaient lutté ensemble pour de mêmes idéaux pendant plus de 60 ans et s'approchaient maintenant du crépuscule de leur existence. Elle avait vécu des turpitudes infinies depuis son premier réveil à l'ère de la dissuasion, mais elle n'avait en réalité passé que 4 ans hors d'hibernation. Elle avait aujourd'hui 33 ans, ce qui était encore très jeune, à une époque où l'espérance de vie moyenne s'élevait déjà à 150 ans. Chung-Sin salua les deux hommes, puis personne n'ajouta rien de plus. Wade entraîna directement Chung-Sin à l'intérieur du laboratoire, suivi de Bi-Yung Feng et Cao Bin. Ils entrèrent dans une vaste salle sans fenêtre où l'air était gorgé de l'odeur âcre de l'électricité statique. Chung-Sin comprit qu'il se trouvait dans une chambre anti-intellectron. 60 ans avaient passé, et les humains n'étaient toujours pas sûrs que les intellectrons aient bien quitté le système solaire. Ils ne pourraient peut-être jamais en être parfaitement sûrs. La salle devait avoir été remplie de différentes machines quelque temps plus tôt, mais ces équipements étaient maintenant entassés les uns sur les autres dans un coin de la pièce, manifestement déplacés avec précipitation pour libérer l'espace central. Au milieu de la salle se dressait une machine solitaire. Le contraste entre le désordre des objets repoussés dans les coins de la salle et le vide laissé en son centre procurait un sentiment d'excitation, comme si des chasseurs de trésors venaient de trouver un diamant rare et avaient jeté leurs outils au loin pour laisser place au trésor qu'ils venaient d'exhumer. La complexité extrême de la machine évoqua à Chung-Sin un tokamak de l'ère commune, mais en miniature. La partie principale consistait en une sphère coupée en deux en son milieu. La surface de l'hémisphère inférieur était recouverte d'objets tubulaires de différentes épaisseurs, tous tournés face au centre invisible de la sphère, ce qui la faisait ressembler à une mine navale bardée de cornes de Hertz. L'installation donnait l'impression de vouloir concentrer de l'énergie au centre de la sphère. Celle-ci était coupée horizontalement par une plateforme en métal noir. L'hémisphère supérieur paraissait pour sa part rudimentaire en comparaison avec la partie inférieure dont il partageait le même diamètre. C'était une sorte de verrière transparente. Les deux hémisphères séparés par la plateforme formaient un tout contrasté entre transparence et hermétisme, simplicité et complexité. Au centre du dôme transparent se trouvait une autre petite plateforme métallique d'une surface lisse et argentée de quelques centimètres carrés de la taille d'un paquet de cigarettes. Cette petite plateforme contenue dans la verrière paraissait être une minuscule et délicate scène de danse pour laquelle jouait l'orchestre gigantesque et hétéroclite du mécanisme de l'hémisphère inférieur. Une représentation extraordinaire ne tarderait pas à être donnée. Nous allons permettre à une partie de toi-même d'expérimenter ce moment grandiose, dit Wade. Il approcha de Chung Sin et tendit une paire de ciseaux vers sa tête. Chung Sin se crispa mais ne s'esquiva pas. Wade coupa avec délicatesse une mèche de ses cheveux. Il la pinça entre les doigts et l'observa, mais la trouvant encore trop longue, il en coupa une petite section qui ne devait faire que 2 ou 3 millimètres de long, si bien qu'elle ne se voyait presque pas. Puis il se dirigea vers la machine. Bi Yun Feng ouvrit la verrière et Wade déposa délicatement les brins de cheveux sur la petite plateforme. Wade avait beau être centenaire, il s'était servi de sa seule main pendant toute l'action et ses mouvements avaient été d'une précision admirable. Il n'avait pas tremblé une seule fois. « Approche et regarde bien », fit Wade en désignant la petite plateforme. Chung Sin approcha ses yeux du dôme de verre. Elle vit sa minuscule mèche posée sur la petite surface lisse. Elle remarqua aussi une ligne rouge qui divisait la plateforme en 2 parties égales. L'échantillon de ses cheveux avait été placé d'un côté de la ligne. Wade fit un signe de tête à Bi Yun Feng qui fit apparaître dans l'air une interface de contrôle grâce à laquelle il activa la machine. Chung Sin se baissa et vit que les tubes raccordés à la machine commençaient à rougeoyer. Elle pensa à la scène qu'elle avait vue sur le vaisseau trisolarien. Elle ne sentit toutefois aucune chaleur se dégager de l'installation mais entendit un ronronnement sourd. Elle redirigea immédiatement son regard vers la petite plateforme à l'intérieur de la verrière et eut la sensation qu'une interférence invisible se répandait depuis celle-ci et soufflait sur son visage, comme une brise légère. Mais ce n'était peut-être qu'une illusion. Elle vit que sa mèche de cheveux s'était déplacée de l'autre côté de la ligne rouge, mais elle ne l'avait pas vue bouger. Il y eut un dernier bourdonnement et la machine s'arrêta. « Qu'as-tu vu ?» demanda Wade. « Il vous a fallu 1/2 siècle pour déplacer de 2 centimètres une mèche de cheveux de 3 millimètres, » répondit Chung Sin. « Elle a été déplacée par propulsion par courbure, » rétorqua Wade. « Si nous avions continué à accélérer ce brin de cheveux, il serait passé dans 10 mètres à la vitesse de la lumière, » précisa Bi Yun Feng. « Naturellement, nous n'en sommes pas encore capables et nous n'oserions pas le faire ici. Si cette petite mèche se mettait à naviguer à la vitesse luminique, elle suffirait à détruire toute la cité à l'eau. » Chung Sin médita sur ses cheveux qui venaient de parcourir 2 centimètres grâce à une déformation de l'espace. « Si je comprends bien, vous me dites que vous avez inventé la poudre, que vous avez créé un pétard, mais que vous avez pour objectif ultime de construire une fusée spatiale. » « Vous en aurez pour au moins 1 millénaire. »« Tu te trompes. Je te propose une meilleure analogie. Nous avons découvert l'équation E égale MC2, ainsi que le principe de la radioactivité, et notre intention est de construire une bombe atomique. Il ne nous faudra pas plus de quelques dizaines d'années. D'ici 50 ans, nous serons en mesure de construire des vaisseaux interstellaires luminiques à propulsion par courbure. » Mais pour cela, nous aurons besoin de conduire des simulations et de nombreuses expériences. Il nous faut donc abattre notre jeu et demander à la Fédération de nous permettre de bénéficier de l'environnement adéquat. Vu comme vous vous y prenez maintenant, vous risquez de ne pas bénéficier de grand-chose. Tout dépendra de ta décision, répondit Wade. Tu crois certainement que nous ne pesons pas lourd face à la flotte qui campe autour de la cité, mais détrompe-toi. Il pointa la porte. Entrez! Une troupe d'hommes armés entra dans la pièce qui fut bientôt bondée. Ils étaient environ 40 ou 50, tous des jeunes gens, vêtus de combinaisons spatiales noires qui obscurcirent la salle. Il s'agissait d'uniformes militaires légers qui différaient peu des uniformes ordinaires, si ce n'est que ceux qui les portaient pouvaient se rendre dans l'espace en quelques minutes, après avoir revêtu leur casque et enfilé leur sac à dos de support de vie. Cheng Xin était néanmoins surprise par leurs armes. C'étaient des mitrailleuses de facture très classique, identiques en apparence à celles de l'ère commune. Elles étaient peut-être de fabrication récente, mais leur modèle était incontestablement celui des anciennes armes à feu, entièrement mécaniques, avec culasse et détente manuelle. Les munitions dont ils disposaient pouvaient confirmer ce point. Chaque homme portait deux bandes de cartouches dorées croisées sur la poitrine. On aurait pu comparer l'irruption soudaine de ces hommes en cet endroit à une troupe d'archers faisant brusquement leur apparition à l'ère commune. Mais cela ne voulait pas dire que ces miliciens n'étaient pas intimidants, bien au contraire. Les armes n'étaient pas les seuls indices donnant à Cheng Xin l'impression d'être retourné dans le passé. De l'apparence des hommes transpirait un esprit de corps, tant physique que moral, qui lui rappelait un temps déjà révolu. Ils étaient robustes, et leurs muscles athlétiques saillaient sous leurs combinaisons légères. Leur visage trahissait une grande détermination. Quant à leur regard, ils dégageaient une même expression d'indifférence et de froideur métallique, comme si la vie avait pour eux la même valeur qu'un brin d'herbe. « Voici nos forces de défense », expliqua Wade en saluant la troupe. « Ce sont les gardiens de la cité Halo et de notre idéal des vaisseaux luminiques. Ils sont presque tous au complet, mais nous avons encore quelques hommes à l'extérieur et d'autres nous rejoindront bientôt. Ils ne sont pas plus d'une centaine. Quant à leurs armes, commença Wade en empruntant une mitrailleuse à un soldat dont il tira la culasse. C'est bien ce que tu crois. Ce sont des armes anciennes, mais fabriquées avec des matériaux modernes. Les balles ne sont pas chargées avec de la poudre ordinaire. Elles peuvent atteindre des cibles beaucoup plus lointaines et avec un degré de précision bien plus élevé. Dans l'espace, ces fusils mitrailleurs peuvent toucher un vaisseau de grande taille à 2000 kilomètres. Mais ce sont en effet des jouets primitifs. Peut-être les trouves-tu ridicules, et je ne serai pas loin de te donner raison, sauf sur un point. Il rendit son arme au soldat et sortit une cartouche de la bande de munitions de sa poitrine. Comme je viens de le dire, les cartouches n'ont quasiment pas changé. Mais les balles font appel à une technologie futuriste, même pour notre époque. La balle est en réalité un récipient supraconducteur empli de vide pur, au centre duquel est suspendue une petite sphère. Un champ magnétique évite que la sphère n'entre en contact avec l'étui, car cette sphère est en antimatière. Bi Yunfeng précisa avec une voix pleine de fierté. L'accélérateur de particules circumsolaires n'a pas seulement servi à des expériences de recherche fondamentales, il a aussi réussi à créer de l'antimatière. Ces 4 dernières années, nous l'avons fait fonctionner presque exclusivement dans ce but. Et nous avons maintenant en notre possession 15 000 balles de ce type. Cette cartouche d'apparence primitive que Wade tenait entre les mains fit tressaillir Cheng Xin. Elle se demandait si le champ magnétique comprimé à l'intérieur était suffisamment stable et fiable. La moindre défaillance pourrait faire entrer la sphère d'antimatière en contact avec l'étui, et la cité tout entière s'évanouirait en fumée dans un éclair étincelant. Elle observa ensuite les bandes de munitions dorées placées devant la poitrine des soldats. C'étaient les chaînes du dieu de la mort. Une bande à elle seule pouvait anéantir l'intégralité du monde des bunkers. « Nous n'avons même pas besoin de lancer notre attaque depuis l'espace, » poursuivit Wade. « Nous n'avons qu'à attendre que la flotte de la Fédération se rapproche. Nous avons de quoi tirer des dizaines, voire des centaines de balles sur chacun des 20 vaisseaux qui nous assiègent. Un seul impact suffira à foudroyer tout un bâtiment. C'est une façon très primitive de faire la guerre, mais elle est efficace. Un seul homme armé d'une de ces mitrailleuses équivaut à une unité de combat capable de menacer un vaisseau. Nous avons aussi des soldats armés dans d'autres cités. » Il reposa la cartouche dans la bande de munitions du soldat. « Mais nous ne voulons pas la guerre. Au cours des ultimes négociations, nous montrerons nos armes à l'envoyé de la Fédération et nous lui dirons avec la plus grande sincérité que nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Nous inviterons le gouvernement fédéral à prendre la mesure des conséquences qu'entraînerait ce conflit et nous demanderons la fin du blocus de Halo. Nos exigences sont modestes. Nous voulons simplement pouvoir bâtir une base d'essai pour des moteurs à propulsion par courbure à quelques centaines d'unités astronomiques du système solaire. Mais si la guerre éclate, sommes-nous si sûrs de remporter la victoire ? Demanda Cao Bin, qui s'était tu jusqu'ici et qui, contrairement à Bi Yunfeng, ne semblait manifestement pas approuver le choix d'un conflit. Non, répondit calmement Wade. Mais eux non plus. Nous ne faisons que les mettre à l'épreuve. Cheng Xin avait compris ce qu'elle devait faire dès l'instant où Wade avait pris la balle à antimatière dans ses mains. Elle ne se faisait pas beaucoup de soucis pour la flotte fédérale, elle était certaine qu'elle s'était préparée à tout type d'offensive. Ses pensées étaient tournées vers cette phrase qu'avait prononcée Wade et qui résonnait dans son esprit. « Nous avons aussi des soldats armés dans d'autres cités. » Si une guerre éclatait, ces guerrieros embusqués au cœur des autres cités spatiales du monde des bunkers tireraient à vue avec leurs mitrailleuses à antimatière. Et ces puissantes explosions démoliraient la fine coque extérieure des cités, embrasant tout ce qui se trouvait à l'intérieur. Les cités en rotation seraient mises en pièces. Des dizaines de millions d'humains mourraient. Les cités spatiales étaient aussi fragiles que des coquilles d'œufs. Wade n'avait pas déclaré expressément qu'il comptait passer à l'assaut dans les autres cités spatiales du monde des bunkers, mais rien ne disait qu'il s'en abstiendrait. Elle revit ce moment, 133 ans plus tôt, lorsqu'il avait pointé son pistolet sur elle. Cet épisode était gravé dans son cœur au fer chaud. Elle ignorait à quel degré de cruauté un homme devait parvenir avant de faire ce choix, mais la folie et la brutalité de cet être prenaient source dans une rationalité extrême. Il lui sembla entendre une nouvelle fois un Wade, jeune de 3 siècles, qui rugissait avec la fureur d'une bête sauvage. « De l'avant, de l'avant, de l'avant, et ne reculer devant rien !» Et quand bien même Wade n'aurait pas l'intention d'attaquer les cités, qu'en serait-il de ses hommes ? Comme s'il voulait prouver qu'elle avait raison d'être inquiète, un des gardiens de la cité s'adressa à elle. « Docteur Chung, veuillez nous croire, nous lutterons jusqu'à la fin. » Un autre soldat lui fit écho. « Nous ne nous battons pas pour vous, ni pour Monsieur Wade, ni non plus pour la cité. » Son doigt pointa le ciel et ses yeux parurent s'embraser. « Savez-vous ce qu'ils veulent nous prendre ? Non pas la cité ou les vaisseaux luminiques, mais tout l'univers en dehors du système solaire. Ces milliards de mondes merveilleux qu'ils nous refusent de voir. Ils souhaitent nous enfermer, nos descendants et nous, dans une prison d'un rayon de 50 unités astronomiques qui a pour nom système solaire. » Nous combattons pour la liberté. Nous avons le droit d'être des individus libres dans l'univers. Notre lutte est semblable à celle de tous nos ancêtres qui se sont un jour battus pour défendre leur liberté. Nous lutterons jusqu'à la fin. Je parle au nom de toute la brigade des sentinelles de la cité Halo. Les soldats hochèrent la tête en regardant Cheng Xin avec des yeux froids comme la glace. Cheng Xin se remémorerait sans cesse les paroles de ce soldat, mais en cet instant, elle n'avait pas été touchée par ce discours. Elle était enlisée dans une peur profonde. Elle avait soudain l'impression de se retrouver 130 ans plus tôt, devant le bâtiment des Nations Unies, avec le même bébé dans les bras. L'enfant faisait face à une meute de loups affamés. Elle était la seule à pouvoir le protéger. « Ta promesse tient-elle toujours ? » demanda-t-elle à Wade. Wade hocha la tête. « Naturellement. Sinon, pourquoi t'aurais-je réveillé ? « Bien. Mettez immédiatement un terme à vos préparatifs pour la guerre. Cessez toute résistance. Livrez vos armes à antimatière au gouvernement fédéral et ordonnez à vos hommes infiltrés dans les autres villes de faire de même. » Tous les regards des soldats se portèrent sur Cheng Xin comme s'ils voulaient la foudroyer de leurs yeux. Le rapport de force était trop inégal. Elle défiait d'impitoyables machines de guerre, des êtres qui portaient sur eux plus de 100 bombes et qui obéissaient aux ordres d'un général fou et tout-puissant. Ensemble, ils formaient une énorme roue noire capable de tout écraser. Et elle n'était qu'une créature fragile sur son chemin. Comme l'avait dit Wade, c'était une petite fille dans ce monde, un minuscule brin d'herbe, pas même capable de ralentir l'avancée de cette roue. Mais elle avait fait tout ce qu'elle pouvait faire. Toutefois, les choses se passèrent différemment de ce qu'elle avait imaginé. La roue semblait s'être arrêtée devant le brin d'herbe. Les yeux des soldats se tournèrent vers Wade. La sensation suffocante qui s'était emparée d'elle s'allégea quelque peu, mais elle avait toujours du mal à respirer. Le regard de Wade était figé sur la plateforme où les cheveux de Chung Sin avaient été déplacés grâce à la propulsion par courbure, comme si c'était un autel sacré. Chung Sin pouvait imaginer que c'était autour de cet autel que Wade avait jadis rassemblé ses fidèles et qu'il leur avait annoncé qu'il était prêt à déclarer la guerre. « Ne souhaites-tu pas réfléchir davantage ?» demanda Wade. « Je n'ai pas besoin de réfléchir. » La voix de Chung Sin était étonnamment résolue. « Je formule une nouvelle fois ma décision. Cessez toute résistance. Livrez vos armes. » Wade releva la tête pour la regarder et, une nouvelle fois, se dessinèrent sur son visage une impuissance et une imploration rares. Il pesa chacun de ses mots. « Perdre notre humanité, c'est perdre beaucoup. Perdre notre animalité, c'est perdre tout. » « Je choisis l'humanité, » affirma Chung Sin en balayant la salle du regard. « Et je souhaiterais que vous fassiez de même. » Bi Yunfeng s'apprêtait à répondre à Chung Sin, mais Wade l'interrompit d'un geste de la main. Ses yeux s'assombrirent. Quelque chose en lui semblait s'être éteint à jamais. Le poids du temps parut s'effondrer sur lui, broyant son corps. Il avait désormais l'air faible et fatigué. Il s'appuya de sa main unique sur la plateforme en métal et ordonna avec difficulté qu'on lui apporte une chaise, avant de relever lentement la main en pointant la plateforme. Puis il baissa les yeux. « Rassemblez vos munitions ici, toutes. » Il n'eut aucune réaction. Cependant, Chung Sin avait senti quelque chose dans l'air qui s'était adouci. Une puissance obscure était en train de se dissiper. Les yeux des soldats se détournèrent de Wade et s'éparpillèrent. Ils ne regardaient plus dans une seule direction. L'un d'eux se décida enfin à venir déposer ses deux bandes de munitions devant la plateforme. Son geste fut délicat, mais le choc entre les cartouches et la plateforme fit sursauter Chung Sin. Les bandes reposaient tranquillement sur la plateforme comme deux serpents d'or. Puis ce fut le tour d'un deuxième soldat de déposer ses munitions. Puis de beaucoup d'autres. La plateforme fut bientôt jonchée de chaînes jaunes et scintillantes. Le bruit de pluie métallique des cartouches cessa. Toutes les bandes de munitions avaient été livrées. Tout redevint silencieux. « Ordonnez à tous nos agents infiltrés dans le monde des bunkers de déposer les armes et de se rendre au gouvernement fédéral. Nous coopérerons avec la flotte pour lui laisser prendre le contrôle de la ville. » « Je ne veux aucune action violente, » déclara Wade. « À vos ordres, » répondit l'un des soldats. Privés de leurs munitions, ces hommes vêtus de combinaisons noires paraissaient encore plus sombres. Wade fit un signe de la main indiquant aux soldats de partir. Ils s'en allèrent sans un bruit et la pièce parut s'illuminer d'un coup, comme si des nuages noirs avaient été chassés du ciel. Wade se releva non sans mal, il contourna la haute pile de cartouches à antimatière, ouvrit lentement le dôme en verre et souffla sur la surface lisse de la plateforme de propulsion par courbure, faisant s'envoler les cheveux de Chung Sin. Puis il referma la verrière, leva la tête et adressa un sourire à Chung Sin. « Tu vois, petite fille, j'ai tenu parole. » Une fois l'incident de la cité Halo résolu, le gouvernement fédéral ne rendit pas immédiatement publique l'existence des armes à antimatière. Comme on pouvait s'y attendre, il y eut assez peu de réactions de la communauté internationale. Le groupe Halo étant à l'origine de l'accélérateur de particules circumsolaires, il bénéficiait encore d'une image globalement positive dans le monde et l'opinion publique manifesta une certaine indulgence à son égard, estimant qu'il n'était pas indispensable de poursuivre juridiquement les responsables et qu'il était possible de rendre son autonomie à la cité. Tant que le groupe Halo tenait sa promesse de ne lancer aucun programme de recherche ou de développement sur la propulsion par courbure et que ses activités restaient sous la surveillance de la Fédération, il pourrait continuer son chemin. Mais une semaine plus tard, l'état-major de la flotte fédérale révéla au monde entier l'existence des balles à antimatière. Et lorsque l'image de ces démons mortels scintillant d'or apparut aux yeux des gens, le choc fut énorme. Le groupe Halo fut déclaré hors la loi et la Fédération confisqua l'ensemble de ses acquis, accaparant entre autres l'accélérateur de particules circumsolaires. Les forces spatiales de la Fédération proclamèrent l'occupation à long terme de la cité spatiale Halo et ordonnèrent la dissolution des académies des sciences et d'ingénierie. Le directoire de l'entreprise, dont Wade, ainsi que les 300 membres des forces de défense de la cité, furent arrêtés. Au cours du jugement qui se déroula au tribunal fédéral, Thomas Wade fut convaincu de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et de violation des lois interdisant la recherche sur la technologie de la propulsion par courbure. Il fut condamné à la peine capitale. Dans la cité Terre 1, capitale de la Fédération du système solaire, Chung Sin alla rendre une dernière visite à Wade dans sa cellule de détention, situé près de la Cour suprême de la Fédération. Séparés par une vitre transparente, ils s'observèrent sans rien dire. Chung Sin découvrit que cet homme de 110 ans était aussi paisible que la surface d'une flaque d'eau sur le point de s'assécher et qu'aucune ride ne viendrait plus jamais brouiller. Par une minuscule fenêtre, Chung Sin tendit à Wade le coffret de cigares qu'elle avait acheté sur le marché flottant de Pacific 1. Wade ouvrit la boîte, prit 3 des 10 cigares, puis il la rendit à Chung Sin. « Je ne pourrai pas fumer le reste. »«
Parle-moi de toi, de ta vie, de ce que tu as accompli. Je pourrai le raconter à la postérité, » dit Chung Sin.
Wade secoua lentement la tête. « Je ne serai qu'un mort de plus. » Il n'y a rien de plus à raconter. Chung Sin savait qu'au-delà de la vitre, tous deux étaient séparés par le fossé le plus profond du monde, et celui-ci ne pouvait plus être franchi.
« As-tu quelque chose à me dire ?»
demanda pour finir Chung Sin, surprise de vouloir entendre sa réponse. « Merci pour les cigares. » Il se passa un long moment avant que Chung Sin comprenne que c'était ce que Wade avait voulu lui dire. Ses dernières paroles, toutes ses paroles. Ils restèrent assis en silence, sans se regarder. Le temps se changea en eau stagnante, et elle finit par les engloutir, jusqu'à ce que les vibrations du maintien orbital de la cité fassent revenir Chung Sin à la réalité. Elle se leva doucement et murmura ses adieux à Wade. Dès qu'elle eut passé la porte de la cellule, Chung Sin prit un cigare dans la boîte et emprunta un briquet au geôlier. Elle fuma la première bouffée de tabac de toute son existence, mais, bizarrement, elle ne toussa pas. Elle vit la fumée blanche s'élever en volute dans les rayons de soleil de la capitale et se dissiper devant ses yeux brouillés de larmes, comme si 3 siècles entiers venaient de s'éclipser. 3 jours plus tard, Thomas Wade fut vaporisé par un faisceau laser. Cela ne prit qu'un 10 millième de seconde. Chung Sin se rendit dans le centre d'hibernation d'Asie 1 et réveilla AA, puis toutes deux retournèrent sur Terre. Elles effectuèrent le chemin du retour à bord du Halo. Après avoir confisqué toutes les propriétés du groupe, le gouvernement fédéral avait redistribué une partie des richesses à Chung Sin, environ le même capital que celui qu'elle possédait avant de donner les clés du groupe à Thomas Wade. La somme était astronomique, mais elle restait modeste par rapport au chiffre d'affaires total du groupe Halo. Parmi les propriétés qui furent rendues à Chung Sin se trouvait le vaisseau Halo. C'était déjà la 3e génération de cet appareil. un vaisseau interstellaire de petite taille où pouvaient prendre place 2 ou 3 passagers. L'écosystème autorégénératif à bord était remarquablement conçu et ressemblait à un merveilleux petit jardin. Chung-Sin et A-A voyagèrent sur tous les continents désormais dépeuplés de la planète. Elles survolèrent des forêts infinies, firent des randonnées à cheval dans des plaines désertes, marchèrent le long de plages abandonnées. La majorité des villes avaient été recouvertes par les lianes et une végétation touffue, et il ne restait plus que de rares poches d'habitations humaines. Le nombre d'humains sur Terre était sensiblement le même qu'à la fin du Néolithique. Plus elles passaient du temps sur Terre, plus elles avaient l'illusion que la civilisation humaine n'avait été qu'un grand rêve. Elles retournèrent en Australie, où toute la population restante se concentrait à Canberra et où ne subsistait qu'un gouvernement d'une bourgade minuscule qui se faisait appeler le gouvernement fédéral d'Australie. La grande porte du Parliament House, où un tel Electra avait proclamé le plan d'annihilation de l'espèce humaine, était envahie par une végétation dense. Des lianes grimpaient même jusqu'au drapeau, à 90 mètres de hauteur. Elles purent consulter des archives gouvernementales où elles apprirent que le vieux Coupard avait vécu jusqu'à l'âge de 150 ans avant d'être enfin vaincu par le temps. Il était décédé depuis une dizaine d'années. Elles se rendirent une nouvelle fois sur l'île de Mosken, où se trouvait encore le phare du vieux Jonas, mais il ne clignotait plus depuis longtemps. La région était déserte. Sur l'île, elles entendirent une nouvelle fois le grondement du Maelstrom, mais lorsqu'elles regardèrent dans sa direction, elles ne virent qu'une mer vide sous les rayons du couchant. Aussi vide que leur avenir.
« Et si nous allions dans le monde, après l'attaque de la forêt sombre, ce monde dans lequel le soleil aura disparu, peut-être pourrons-nous vivre en paix ?»
C'était aussi ce que désirait Chung-Sin, mais pas tant pour vivre en paix, que pour échapper aux sollicitations permanentes d'une foule qui la traitait comme une sainte depuis qu'elle avait permis d'éviter une guerre destructrice. Elle ne pouvait pas continuer à vivre ainsi. Elle aussi avait envie de voir de ses propres yeux comment la civilisation survivrait et prospérerait dans un monde dévasté par une attaque de la forêt sombre. C'était le seul semblant d'espoir qui la préservait de la folie. Elle s'imagina la vie dans le système solaire une fois que le soleil serait devenu une nébuleuse. Elle trouverait peut-être enfin la paix, peut-être même le bonheur. Ce serait en tout cas sa dernière escale. Après tout, elle n'avait que 33 ans. Chung-Sin et A-A reprirent le halo et retournèrent dans l'archipel des cités joviennes, où elles entrèrent une nouvelle fois en hibernation sur Asie 1. Elles signèrent pour 200 ans de sommeil, mais il était stipulé dans leur contrat qu'elles seraient réveillées plus tôt si une attaque de la forêt sombre frappait la Terre d'ici là.